Quand on m'a confié le mandat de monter l'exposition des membres actifs de la centrale, j'ai décidé de rencontrer les artistes qui étaient intéressés à participer au projet, sans préalablement leur imposer de thématique pour guider leur sélection. Je souhaitais qu'une de mes rencontres et échanges avec les artistes, un ou certains concepts allaient émaner et allaient me permettre de créer des liens entre les différentes œuvres qui allaient être présentées. Je voulais donner la plus grande place possible aux artistes en me laissant guider par leur production plutôt que de me fixer au préalable des œillères qui auraient orienté ma sélection des œuvres. Parce que, faut pas l'oublier, la centrale est un centre d'artistes et, en tant que commissaire invité, je voulais comprendre le fonctionnement de ce centre, rencontrer les artistes, discuter avec elles de leur démarche artistique, de ce qui les anime à travers leur pratique. Tout ça dans l'objectif de présenter une partie ou même une parcelle de la production de ses membres. Suite à toutes ces rencontres, il y a une thématique générale qui a émergé, celle du jeu. D'un côté, le jeu en tant qu'activité ludique, souvent réservée au monde de l'enfance, aux histoires, au domaine de l'imaginaire. Mais il y avait aussi le jeu dans sa dimension théâtrale, performative. Les œuvres qui se trouvent ici regroupées utilisent des symboles ou des souvenirs relevant du domaine de l'enfance, parfois en constituant un univers narratif fictionnel, souvent dans l'objectif de faire émerger auprès du public une réflexion subversive. D'autres œuvres relèvent plutôt de la performativité et questionnent certaines normes, certaines institutions, en relation avec les rapports sociaux de genre et la notion de fixité identitaire. Certaines œuvres combinent même ces deux dimensions du jeu. Plusieurs œuvres utilisent des symboles qui peuvent être liés à des fictions narratives populaires, mythes ou contes, destinées pour la plupart à un public juvénile. Ainsi, il y a la performance de Jennifer Schiller, qui s'applique à étendre, puis ensuite à balayer, durant plusieurs dizaines de minutes, une grande quantité de brillants roses qui évoque certainement la figure de Cendrillon. Ce personnage se trouve aussi réapproprié à travers l'œuvre d'Elena Martine Franco. Sa sculpture et ses deux photographies exposées suscitent une réflexion autour du rêve, du grand amour, de la princesse de conte, mais aussi de ses effets pervers. À travers sa vidéo, Eugénie Clich présente aussi une interprétation de la norme du couple amoureux hétérosexuel. Elle y utilise plusieurs symboles qui demandent à être décodés et j'apprécie particulièrement le clin d'œil littéral qu'elle fait en fin de vidéo à l'expression populaire « faire un bout de chemin ensemble ». L'œuvre de Claire Dumoulin nous entraîne plutôt dans un autre type de fiction dont l'effet immersif de l'œuvre se trouve accentué par l'accompagnement sonore qu'elle interprète et qui vise à guider l'attention du public sur chaque petit détail de son travail. L'histoire qu'elle articule autour de ses deux dessins utilise certains référents au monde fantastique d'Alice au Pays des Merveilles, et il est aussi possible de faire un lien entre ce conte et la performance de Virginie Jourdain, Tea Party, qui propose au public de boire une mixture qui comprend un microdosage de testostérone synthétique dans l'objectif de constater ou pas un changement sur la physionomie. L'artiste utilise cette substance afin de questionner la présomption d'une essence masculine et pose également la question d'une essence féminine. Bien que cette performance se déroule le soir du vernissage, un pichet et des fioles seront mis à la disposition du public lors du reste de l'exposition, qui sera invité à expérimenter la concoction. Nathalie Lemoine procède à travers son œuvre à une démarche similaire, en documentant par prise photographique les effets de l'alcool sur la coloration pigmentaire de personnes asiatiques, en se liant aux Autochtones par la réinterprétation du mythe des peaux rouges dont on lui avait parlé durant son enfance. Ces photos sont extraites d'un projet encore en cours de réalisation qui va comprendre 100 photographies de personnes asiatiques qui ont accepté d'être posées avant et après l'ingurgitation d'une certaine quantité d'alcool. Le travail de Julie Lequin se situe quant à lui davantage dans l'autofiction, dans la mise en récit d'événements anecdotiques de sa propre existence. Les aquarelles qu'elle présente ici sont aussi en fait les fragments d'un vaste projet, celui-là nommé Top 30, et qui vise à grouper ses souvenirs par tranche d'âge. Dans la série d'images qui se trouve exposée, l'artiste se remémore certains objets chez elle qui avaient le logo des fournisseurs de la famille royale britannique, puisqu'elle avait été marquée par le fait que la reine d'Angleterre elle-même possédait certains produits qui se trouvaient également dans sa demeure à elle. Cynthia Shelley-Hunger confirme le statut de personnalité populaire d'Elisabeth II en la peignant d'un style évoquant les sérigraphies d'Andy Warhol. La proximité de ce portrait au lieu de performance de Jourdain confère une autre dimension à la toile en évoquant le rôle considéré masculin de chef d'État et de l'armée de la reine d'Angleterre. Quant à l'œuvre de Nadia Nadège, elle ne raconte pas une histoire à proprement parler, mais demande plutôt à ce que le public lui en propose, en insérant dans les poches de ses petites poupées de tissu des biais déjà écrits ou en composant de nouvelles narrations. L'œuvre, qui